Radio Kapi. Oh,
Kapi. Pascal Masiri Kabissimo à la présentation de votre journal.
Au sommaire de cette édition, 8 ans se sont déjà écoulés ce samedi depuis le massacre de 33 civils dans la ville de Beni au Nord Kivu. Il y a eu d'importantes manifestations pour honorer la mémoire des infortunés qui avaient été tués au quartier Ngadi Nzuma dans la commune de Rouenzori. Au Nord Kivu, les femmes rurales peinent actuellement à accéder aux soins de santé lors des accouchements. Ce problème relance la proposition d'Eddie portant protection spéciale de la femme enceinte et du nouveau-né présentée en 2020 à l'Assemblée provinciale. Notre invitée, c'est Madame Dapros Bitungwa. Cette dame parle des défis auxquels elle est confrontée en sa qualité de femme rurale, dont c'est aujourd'hui la journée mondiale. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est aujourd'hui le 8e anniversaire du massacre des 33 civils dans la ville de Beni au Nord Kivu. Plusieurs activités étaient prévues aujourd'hui donc pour honorer la mémoire des infortunés qui ont été tués au quartier Ngadi et Zuma dans la commune de Rouenzori. Un reportage de Guylaine Kassassia rendu ici par Pierrot et Lamégie.
Tout a commencé par le lancement des travaux de construction des mausolées pour immortaliser. Plusieurs habitants de Beni étaient sur les lieux pour accompagner ces travaux, ce qui permettra selon eux d'avoir du respect pour que justice soit faite. Eli Mbafumo Jakasereka est l'un de ceux qui effectuaient ces travaux.
C'est une lutte que nous devons entreprendre parce que nous sommes victimes de massacres sans savoir la source et la raison. C'est pourquoi nous sommes là, pour essayer de pérenniser cette action, pour qu'un jour, même nos petits-fils soient capables d'expliquer que leurs grands-parents ont été massacrés innocemment.
Selon l'ingénieur, l'ouvrage va consister à construire des tombes selon le nombre des civils qui s'y trouvent, ainsi qu'une clôture tout autour. Après ces travaux, s'en est suivi un culte œcuménique au cours duquel une collecte spéciale a été organisée, fonds qui servira pour obtenir des actes de décès de ces victimes.
Autre zone, autre drame. En Ituri, pendant ces temps, 12 personnes ont été tuées hier vendredi dans leur champ par des hommes armés à Mamsome, village situé à 12 kilomètres de la cité de Komanda dans le territoire du Rumu. La société civile locale attribue ce carnage à une nouvelle milice dénommée Chuni Yatuna. L'administrateur du territoire parle quant à lui d'un groupe de bandits. Le récit de Martial Kizaibiamungu.
Les victimes sont des cultivateurs qui ont été surprises dans leur champ très tôt matin de vendredi à Massomé, tout proche des villages Makayanga, dans la chefferie de Basili. Ces hommes munis d'armes à feu et de machettes ont tiré des coups de feu sur les zines et découpé les autres à l'arme blanche. Selon des sources locales qui citent des rescapés, au total, 12 personnes ont perdu la vie, ce qui a créé la panique à Makayanga et Komanda. Des organisations de défense des droits de l'homme attribuent ces tueries à une nouvelle milice à gestation dans la chefferie de Wallace et Vokutu. Mais pour l'administrateur militaire du territoire du Rumu, les auteurs de ces drames sont des victimes armées qui veulent créer de la confusion parmi les communautés qui vivent dans la zone. Le colonel Siro Simba précise qu'il y a une nouvelle milice dans cette région. Ce samedi matin, les activités économiques sont restées suspendues à Commande Centre en compassion avec les familles des victimes. L'arbitre assure que des opérations militaires seront menées dans la forêt des Massobé pour traquer ces malfrats. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi le rebondissement des actes de violence au Maïndombé après le déploiement des FARDC dans les territoires de Kwamout. 15 personnes ont été tuées et plusieurs maisons incendiées lors d'une attaque survenue jeudi soir à Moussiamou, localité proche de Kinsélé. Des sources concordantes attribuent cette attaque à des bandits munis d'armes blanches. Des précisions avec vous, Noël Alouzitoukabambi.
D'après des sources concordantes, cette attaque du village Moussiamou par des hommes armés a eu lieu aux environs de 19h jeudi dernier et a occasionné plusieurs morts. Le secrétaire du chef du village de Kinsélé qui livre le bilan de 15 morts témoigne que lui-même a perdu quelques membres de sa famille biologique lors de cette attaque. Il en appelle à l'intervention des autorités. Jodel Ewere est un habitant de ce village qui s'est lui aussi livré à Radio Okapi. Il dit avoir perdu sa maman ainsi que 5 autres membres de sa famille lors de ces violences. Il trouve inconcevable que jusque-là, l'État congolais n'arrive toujours pas à mettre fin à ces atrocités.
Ma maman biologique n'est plus en vie, est morte. Mon grand-père est mort, mon oncle est mort, ta femme d'ailleurs, Nassi, est morte aussi. son enfant est mort. Hormis ma maman biologique, j'ai perdu plus de 5 personnes au sein de ma famille biologique à Moussiamou. Nous avons commencé depuis longtemps de demander l'intervention de l'État congolais. Et l'État est garant d'assurer la sécurité de la population. Bon, si l'État est devenu démissionnaire, je ne sais pas comment on peut rappeler à l'État qu'il est garant d'assurer la sécurité de la nation. Depuis longtemps, il y a cela des temps, plus de combien de mois, quoi, les gens meurent et nuit. L'État lui-même dans ses yeux parce qu'il écoute.
Notez que cette information sur l'attaque du village Moussiamou est confirmée par plusieurs autorités officielles, notamment l'administrateur du territoire de Kwamout, Luintoua, promet d'en dire plus ultérieurement.
Merci Noëlla Luzitukabambi pour ces précisions. On enchaîne avec le Sud Kivu où la société civile de Calais s'inquiète de la montée de l'insécurité dans ce territoire où plus de 5 personnes ont été assassinées dans moins d'une semaine. Le président de cette structure citoyenne fait remarquer que les circonstances de ces décès ne sont pas élucidées. Le cas le plus récent est celui de 2 hommes qui ont été tués par des présumés miliciens Raya Mutomboki. Delphin Birimbi appelle au déploiement rapide d'un nombre suffisant de policiers. Il est au micro de Jean-Baptiste Ntonga.
Nous continuons à rappeler nos différentes notes de plaidoyer auprès des autorités provinciales et nationales où nous demandons à la nouvelle équipe de l'état-major général des FRDC de déployer, renforcer, équiper les éléments de force de sécurité ainsi que leur prise en charge effective pour mettre fin aux phénomènes groupes armés, bandits armés, corps sans vie, coupeurs de routes dans le territoire de Calais.
Dans un autre chapitre, les incendies des maisons survenus récemment dans plusieurs villages du Congo central, notamment au village de Kiwungu, secteur de Mbanzamona, territoire de Luozi, ne peuvent être attribués à une infiltration des rebelles. Cette mise au point émane du ministre provincial de l'Intérieur du Congo central suite aux rumeurs autour d'une infiltration d'étrangers venus du Rwanda. C'est confié en Radio Okapi ce samedi matin. Papi Mambo Luamba a attribué ces incendies des maisons à une bande d'inciviques. Il est au micro de Nana Plurich Mambou.
Il y a eu des incendies dans 3 territoires de la province de Rwanda. Il y avait d'abord en Douala, dans le territoire de Mbanzaro, où il y a eu plus de 60 maisons incendiées par les inciviques. Ce n'est pas l'inquiétion des militaires, c'est plutôt nos amis de la justice de Mbanzaro, la TGI, qui est allée exécuter un jugement. Et puis, il y a eu incendie dans le village du Mwabi, plus de 360 maisons. Là, c'est poste des Rwandais, mais c'est plutôt l'imprudence des messieurs qui ont été de manipuler du carburant. Et nous avons aussi enregistré notre cas tout récemment, où dans le territoire de Mbanzaro, il y a eu incendie de plusieurs maisons. Là, c'est l'exécution du jugement en déguerpissement. Et ceux qui ont évoqué ces jugements sont connus. C'est le refait des sessions de TGI Mbanzamungu. Troisième cas, on a incendié le village au niveau de Luozi, où après affrontement, il y a eu 7 blessés graves. Voilà la situation des incendies au niveau du village dans la province de Rwanda, qui n'est pas l'objet de l'infiltration. J'entends parler beaucoup dans les réseaux sociaux, certains députés parler de l'infiltration. Non, non, non. Donc, nous devons prévenir les événements, évitons qu'on monte le Rwanda central, évitons Bakatakatanga, c'est pas le fait de dire qu'il n'y a pas d'infiltration qui nous nous a fait. Non, on ne néglige pas, nous tenons ça à l'œil.
Santé à présent. Au Nord Kivu, les femmes rurales peinent actuellement à accéder aux soins de santé lors des accouchements. Il y a 3 jours en effet, dans la localité de Ngungu, groupement d'Oufoumandou 1er, territoire de Massissi, une femme a donné naissance à 5 bébés prématurés, des bébés qui sont décédés quelques heures après. Et ce problème relance du coup la proposition d'édit portant protection spéciale de la femme enceinte et du nouveau-né. Un édit qui a été présenté à l'Assemblée provinciale en octobre 2020. À Goma, la correspondance de Sifa Maguru.
Cet énième cas de décès maternel enregistré dans la zone de Massissi a suscité plusieurs réactions et indignations. Le médecin chef de zone de Kiroche justifie ces cas par la négligence et l'ignorance des femmes en milieu rural. Selon lui, nombreuses ne suivent pas les consultations prénatales et arrivent à l'hôpital trop tard. Ses responsables sanitaires reconnaissent l'insuffisance de la capacité de prise en charge dans les structures rurales qui ne facilitent pas le travail. Un élu local, Jean-Paul Lumbulu, Mulumbu avait déjà soulevé cette question dans une proposition d'édit à l'Assemblée provinciale en octobre 2020. Cet édit proposait, entre autres, la mise en place d'un fonds provincial d'appui à la femme enceinte du nouveau-né et de sa mère.
Cet édit était dédié essentiellement à la femme rurale parce que les conditions médicales de prise en charge pour la femme rurale, surtout dans la province du Nord Kivu. Dans cet édit, nous avons prévu des mécanismes de récolte de moyens de l'État pour notamment la construction de nouvelles maternités dans chaque grande agglomération, la formation du personnel soignant, notamment les femmes sages et les infirmiers.
Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
La maladie du sommeil reste aujourd'hui un danger qui ne retient malheureusement pas l'attention des décideurs. Déclaration faite ce week-end à Kinshasa par le chef du nursing et du centre de dépistage, traitement et contrôle de la trypanosomiase dans la zone de santé de Maluku où des malades sont pris en charge. C'était à l'occasion d'une visite au lendemain de la réunion tenue sur la mobilisation des bailleurs de fonds pour un plaidoyer politique. Léon Findou Mabiala s'est confié à Richard Junior Kamou.
Pour les 5 dernières années, nous avons diagnostiqué et traité au moins 30 patients ici. Et là, en premier stade, il y en avait 3. Deuxième stade, il y avait 13, 15, 19. Et tout, ça fait un total de 30 cas qui ont été diagnostiqués. Et il y avait 2 molécules qu'on avait utilisées. Il y a eu 3 molécules, la Panta, l'Efexi et le Net, comme je venais d'expliquer. Mais pour cette année ici, 2022, donc jusque-là, nous avons au moins 5 cas, 5 malades. Au moment où je vous parle, il y a un malade qui est là, sous traitement. Les autres sont là, à l'extérieur, qui ont fini le traitement. Mais par rapport à la provenance, souvent, c'est les grands bandoulous, les Kassai là, les malades viennent de là. Par rapport au défi, les malades éprouvent beaucoup de difficultés. Je venais de dire ici que, par exemple, je prends les Fexis. On les prend, il faut que le malade ait les moyens, la nourriture. Donc, il va manger, après, ils arrêtent, on les fait avaler et puis ils continuent à manger. S'il n'y a pas la bonne nourriture, on a des sérieux problèmes ici.
Santé encore, nous sommes le 15 octobre 2022, c'est aujourd'hui donc la journée internationale de la canne blanche. Au Maniema, le coordonnateur de l'Union des aveugles remercie le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour la promulgation de la loi portant protection, promotion et participation des personnes vivant avec handicap aux institutions du pays. Il réclame cependant l'autonomisation de leur ministère. Moke Shabani Chama plaide également pour la création d'une activité génératrice de revenus afin d'éviter la mendicité. Il le dit à Florence Kizalunga.
L'autonomisation de ces ministères et l'installation de ces cellules dans les différents coins du pays. Concernant la loi est là, nous avons des regrets. Quand on a une loi qui n'a pas une application, c'est comme on dirait, c'est une existence qui n'a pas l'essence. Alors nous voulions bien voir l'application de cette loi soit alors bénéfique à tous les handicapés, toutes catégories confondues, sans discrimination à tous les niveaux. Dans notre gouvernement provincial, création et construction d'une école technique d'apprentissage de l'écriture braille. Cette école permettra aux aveugles de la province du Maniema d'acquérir les notions élémentaires d'alphabétisation et la connaissance sur les 4 opérations fondamentales de la création d'une activité génératrice de revenus pour cette catégorie longtemps laissée en quarantaine et à l'état contre la mendicité qui bat record dans la vie des kids. La situation éducationnelle du moment en RD Congo dans les écoles secondaires ne permet pas à un indigent aveugle de payer les coûts même d'un enfant parmi tant d'autres qu'il a à la maison. C'est ainsi que nous demandons à nos autorités de les pester, de revoir encore la situation et de trouver la solution quant à ces.
Actualité internationale.
Au Cameroun, 3 ans après la tenue du Grand Dialogue National, la crise qui secoue actuellement les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays a gagné en complexité. L'octroi d'un statut spécial à ces deux régions anglophones est loin de faire l'unanimité sur son efficacité et ramener la paix dans cette partie du pays en proie à des groupes armés voici maintenant 10 ans. L'Ukraine vient de recevoir son premier système de défense anti-aérienne, un système qui a été livré par l'Allemagne et qui devrait ainsi permettre à ce pays de protéger une grande ville contre les raids aériens. Parallèlement, les 30 ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis ce week-end à Bruxelles afin de déterminer au plus vite leur position face à cette nouvelle escalade entre Moscou et Kiev.
L'invité.
Notre invitée, c'est Madame Daphrose Bitungwa. Cette dame parle des défis auxquels elle est confrontée en qualité de femme rurale, dont c'est aujourd'hui la journée mondiale. Elle est interviewée à Kindu par Florence Kizalunga.
Madame Daphrose Bitungwa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une femme rurale. Brièvement, parlez-nous de votre vie quotidienne.
Merci beaucoup, madame. Vous savez, comme toute femme rurale, la vie quotidienne est qu'on se réveille le matin, nous faisons d'abord les petits travaux ménagers et puis nous prenons notre panier, nous nous rendons au champ. Arrivé au champ, il y a différentes activités que nous faisons selon les saisons. Comme maintenant là, nous sommes en train de faire les semis parce que c'est la saison A, nous sémons les maïs et après avoir semé, nous prenons un peu de morceaux de bois pour la cuisine. Quand il est 15h ou 16h, nous rentrons à la maison. Arrivé à la maison, nous préparons la nourriture pour la famille. En arrivant d'abord, moi j'ai l'habitude de préparer les manioc frais parce que ça cuit vite et les enfants mangent vite. Après, je passe maintenant, je peux piler les padis. Si je n'ai pas eu un peu d'argent pour amener ça à la riserie, les soirs, je donne de l'eau à mon mari pour se laver et moi je me lave. Après, je vais me coucher, après avoir aussi fait coucher mes enfants.
Vous avez combien d'enfants, madame?
J'ai 5 enfants.
Comment est-ce que vous gérez vos enfants avec les travaux des champs?
Bon, comme je l'ai dit avant, le matin quand je me réveille, j'ai fait toutes les tâches que j'ai dit, mais en même temps, je regarde comment préparer les enfants pour aller à l'école. Lorsque les enfants sont partis à l'école, moi aussi je me rends au champ.
Vous avez combien de champs?
Bon, je ne manque pas de saison. Actuellement là, j'ai 3 champs. J'ai les champs de manioc, j'ai les champs de piment et j'ai mon champ de maïs que je suis en train de semer.
Vous parlez de plusieurs champs à la fois. Comment est-ce que vous faites pour cultiver tous ces champs?
On partage, hein, nous partageons les jours et nous regardons la saison. Pour éviter d'être en retard avec la saison, on privilégie les champs pendant lesquels nous sommes dans la saison. Comme maintenant, là, nous sommes en train de semer les maïs. Le matin, je vais dans mon champ de maïs. Si je trouve qu'il y a vraiment le soleil qui est accablant, je peux me reposer un peu là au champ et je rentre par mon champ de manioc. Là, j'ai fait le sarclage. Le lendemain, je peux faire des priorités. Je pars pour les champs de piment. Et c'est comme ça que nous faisons l'alternance entre les champs.
Et les semences, vous les trouvez où?
Nous avons des difficultés vraiment par rapport aux semences. Ce que nous faisons par rapport au manioc, nous regardons les amis qui sont à côté, nous partons dans leur champ. Il y a celles qui peuvent vous donner des boutures gratuitement, mais il y a celles aussi qui vous donnent des boutures à vendre. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez faire un travail pour celle-là, par exemple, que vous récoltez pour elle autant de paniers de manioc et elle vous donne autant de colis de boutures.
Et votre champ se trouve à combien de kilomètres?
Mon champ est à 25 km, donc nous partons dans des campagnes. Et là, nous restons là-bas parce que c'est un peu éloigné.
Comment vous faites pour évacuer vos produits au centre de consommation?
C'est là encore un sérieux problème. Ici, chez nous, au Maniema, il n'y a pas de route de dessert agricole. Donc, nous nous butons à un sérieux problème d'évacuation. Lorsque nous récoltons nos champs, nous avons nos semences qui sont là parce que nous construisons des huttes, hein, là où on garde nos produits agricoles récoltés. Maintenant, pour faire sortir ces produits là-bas et pour arriver à la maison, pour les centres de consommation, il faut que vous puissiez payer les gens. Vous payez soit en nature, soit en argent. Il y a les personnes qui vont transporter pour vous des paniers de maïs, des paniers de padis pour amener quelque part où la moto arrive. De là, vous prenez la moto, vous payez encore pour arriver à la maison. Et donc, cela nous coûte énormément cher.
Madame Daphrose, si ce n'est pas un secret, après la vente, comment est-ce que vous faites dans les cadres de partage avec votre mari?
Là encore, c'est un calvaire pour nous, les femmes rurales. Je vous ai expliqué les étapes que j'ai fait pendant la journée et pour faire les champs. Pendant toute cette période-là, le mari n'est pas avec moi. Mais lorsque nous avons récolté, les récoltes sont arrivées à la maison. Moi, je vends. Lorsque je termine ces mains à vendre, je dois faire les comptes à mon mari. Lui prend tout l'argent. Et quand il est là, lui ne me demande pas qu'est-ce que toi tu vas faire par rapport à l'argent que nous avons. Et commence maintenant à me dire. Tu connais que je t'ai dit que je dois acheter une chèvre. Hein? Et je t'ai dit que mon pantalon là est usé, je dois acheter un pantalon. Il ne demande pas aussi que toi aussi qu'est-ce que tu veux. Donc c'est lui d'abord qui a la primeur de l'argent que nous avons eu de notre récolte. Et c'est lui qui donne les orientations, qu'est-ce que nous allons faire avec ça. Moi je n'ai rien à dire. Il y a d'autres mamans, selon l'expérience que nous avons eue, la maman a dit que elle, son mari ne demande même pas. Son mari a amené une autre femme. Elle pensait qu'elle est allée acheter la chèvre, comme il disait, alors que c'était la chèvre pour donner la dot à une autre femme. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, c'est le mari qui a la primaire de gestion de l'argent que nous avons. Ce qu'il va te donner, c'est ce que tu vas te contenter avec. Parce que s'il ne donne rien, qu'est-ce que tu vas faire?
Un petit message à l'occasion de cette journée.
Les hommes qui évitent l'égoïsme et la cupidité, soyons quand même conscients et voyons comment est-ce que nous allons nous entraider dans le travail que nous sommes en train de faire pour l'avenir de nos enfants et pour préparer notre vieille. Yes.
Madame Daphrose Bitungwa, merci.
C'est moi qui vous remercie, Madame Florent.
C'était l'invité de Radio Okapi, Madame Daphrose Bitungwa, cette dame qui parlait des défis auxquels elle est confrontée en sa qualité de femme rurale, dont c'est aujourd'hui la journée mondiale. Elle a été interviewée à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté à Kinshasa. Il est 18h20. Infiniment merci à Pierrot et la Mégie qui l'a préparé sous la coordination et la supervision éditoriale de Noël Alou. Luzi Tukabambi.